Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast.
Des ondes vocastes, le podcast qui parle de radio. Pour ce dernier épisode de l'année 2019, comme d'habitude, on va parler de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Vous écoutez Des ondes vocastes, bienvenue.
Des ondes vocastes.
Aujourd'hui, à mes côtés, trois personnes qui vont se succéder pour nous raconter des choses très intéressantes. Pour commencer, Antoine Libotte, journaliste à Nostalgie Belgique et donc surtout grand passionné de radio. Bonjour Antoine.
Bonjour Anthony.
Alors, lors du dernier épisode, nous avons parlé de la radio au Royaume-Uni et je me suis dit que pour la partie zapping, actualité radiophonique, on allait continuer de parler des radios en dehors de la France. Et justement, Antoine, tu es un fin connaisseur du secteur radiophonique, donc tu vas nous parler en fait de la radio belge.
C'est tout à fait ça, oui, parce que c'est vrai qu'ici en Belgique, on connaît bien les médias français, mais je ne pense pas que l'inverse soit aussi vrai.
Juste après, pour la partie innovation, je recevrai Laurent Berbon, responsable éditorial du Brief, le nouveau flash d'Europe 1 en podcast conçu pour les assistants vocaux. Nous dresserons ensemble un premier bilan 5 mois après le lancement du projet. Et enfin, pour la partie archive de cet épisode, on sera avec Christophe Dallance, troisième partie de notre série sur RFM. Lors du précédent épisode, nous vous parlions de sa période de brouillage. Aujourd'hui, on reviendra sur la période RFM, la radio FM. RFM non plus dirigée par Patrick Meyer, mais par Andrew Manderstam. Restez bien avec nous jusqu'au bout, on vous fera écouter des archives exclusives. On commence tout de suite avec un zapping radio, c'est le tour des ondes en 80 tours, spécial Belgique avec Antoine Libotte.
Des ondes vocast, le tour des ondes en 80 tours.
Alors pour parler des radios belges, je reçois Antoine Libotte, journaliste à Nostalgie Belgique. Alors justement, tu me disais tout à l'heure, Antoine, que à juste titre, les Belges, notamment ceux de la communauté francophone, connaissent bien le paysage média français. Mais en revanche, voilà, les Français ne sont pas spécialement au courant de ce qu'il se passe en Belgique. Et puis moi compris, je me reconnais un peu dans ce que tu dis. Je ne pense pas être le seul en France. Alors du coup, est-ce que tu peux nous faire une présentation du paysage radiophonique belge, du moins pour la partie francophone?
Mais on peut commencer par la RTBF, par exemple, qui est le service public. Donc, en Belgique, francophone et néerlandophone, en fait, c'est un peu comme en Suisse. Il y a vraiment une entité qui chapeaute la radio, la télévision. Et donc, en ce qui concerne la RTBF, qui reprend à peu près un tiers de part d'audience au niveau de la dernière étude du Centre d'information aux médias, eh bien, il y a cinq stations en FM. La première s'appelle tout simplement La Première. C'est la station vraiment historique avec un programme d'info, un programme généraliste avec un peu de culture et d'humour. Donc, on peut comparer ça plus ou moins avec France Inter et France Culture du côté de Radio France.
Mais c'est pas forcément celle qui fait le plus d'audience à la RTBF, donc, La Première.
Non, parce qu'en fait, celle qui fait le plus d'audience, c'est le deuxième programme, c'est Vivacité, qui est l'équivalent de France Bleu. Donc, ça résume à mon avis très vite et très bien ce que c'est le programme de proximité avec décrochages régionaux. C'est aussi la station qui est privilégiée pour tous les événements sportifs, comme les matchs de Pro League, qui est l'équivalent de la Ligue 1 chez nous, ou encore le Tour de France. D'ailleurs, cet été, il y a eu un canal événementiel diffusé sur le réseau DAB+, belge francophone, Vive à Tours, qui reprenait le commentaire audio de La Une, la chaîne de télévision, pour les personnes qui n'avaient pas la possibilité d'être devant leur téléviseur pour suivre le tour. Vivacité.
Il y a un programme de la Vivacité que tu m'as fait découvrir qui était vraiment sympa, qui est assez folklorique. C'est une émission sur le patrimoine belge et les langues régionales du pays qui s'appelle Stomp, Peket et Derouet. Je sais pas si je le dis bien.
C'est Stomp, Peket et Derouet.
Voilà, c'est ça. Alors on a un extrait à écouter pour les auditeurs pour qu'ils se fassent une idée. Tu nous en parleras un petit peu après.
Ok. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum. C'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel.
Jusqu'à 22h sur Vivacité, Stomp, Peket et Derouet, c'est avec Louise Mort.
Allez, toi.
Bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans Stomp, Peket et Derouet, l'émission qui met des paillettes sur les langues et les cultures de Wallonie et de Bruxelles. On est ensemble pour 2h30 d'émission, histoire de vous en faire découvrir toujours plus sur nos expressions, nos langues, nos coutumes régionales. D'où que vous veniez, il y en aura pour tous les goûts ce soir, grâce à nos chroniqueurs de talent. Jacques, vous êtes avec nous pour la région de Liège. Est-ce que ça va, Jacques?
Ah ouais, ça va fouir bas, il fait bé au de fou et tout le monde est binôme.
Oui, il me semble. Vous avez l'air particulièrement en forme.
Alors Stomp, Peket et Derouet de la radio au public belge Vivacité. Alors toi, t'aimes bien ce programme du coup?
Oui, alors en fait, c'est un programme qui est aussi décliné en télévision sur la Une un dimanche sur deux à 10h30, à l'heure de la messe, diront certains. oui, parce que c'est la suite, en fait, ça prend la suite d'un autre programme qui était diffusé sur la RTBF qui s'appelait Wallons-nous et qui met vraiment en avant voilà, les langues régionales, les patois, les dialectes que l'on entend moins de ce côté-ci de la frontière linguistique. Au niveau de la Flandre, on utilise un peu plus souvent les patois néerlandais. Et donc du coup, ben, c'est vrai que remettre un peu au goût du jour ces langues qui vont peut-être paraître désuètes pour un public un peu plus jeune, ben moi ça me fait un peu plaisir.
Alors je comprends que tu compares un peu Vivacité à France Bleu parce que voilà, typiquement on est sur une radio de proximité quoi.
Oui c'est ça, en fait Vivacité est née d'une réforme des radios de la RTBF en 2004. Et en fait, à la base, il y avait trois stations qui composaient le réseau région de la RTBF. Il y avait Fréquence Wallonie en Wallonie. Il y avait Bruxelles Capitale qui est née en 1991 ou 1992, pardon, 91 ou 92.
Vas-y, tu peux le dire, dire 90, il n'y a pas de souci. C'est spécial belge. Donc.
Et il y avait aussi une station qui s'appelait Radio Laine qui était diffusée à Verviers, dans l'extrême est de la Wallonie. Et tout ça a été refondu sous la dénomination Vivacité. Et donc, ben maintenant, il n'y a plus qu'une seule marque Vivacité avec des découpages, des décrochages matin et après-midi.
Alors, tu as parlé pour le groupe la RTBF, donc de la première et Vivacité. Quelles sont les autres radios du groupe du service public?
Alors, il y a Musique 3. Musique 3, c'est l'équivalent de France Musique. C'est le programme de musique classique, de jazz et de musique du monde. C'est aussi une des premières stations qui a bénéficié de la FM stéréo dans les années 60. Et ça a été vraiment, depuis le début, c'est le programme de référence en musique classique en Belgique. Ensuite, il y avait une quatrième station avant 2004 qui s'appelait Radio 21. Et Radio 21, c'était une radio pop rock et aussi un peu classic rock qui s'est en fait dédoublé en deux stations qui s'appellent Classic 21 et Pur. Classic 21 qui est la radio classic rock et aussi la radio de l'infotrafic, du radio guidage. Quand on est sur un autoradio et qu'on branche le signal infotrafic sur son autoradio et qu'on est sur une radio de la RTBF, on passe très souvent sur Classic 21. Il y a aussi les panneaux le long des autoroutes, c'est un peu notre 107.7 du côté belge francophone. Et puis Pur qui s'appelait Pur FM au début, qui est vraiment la radio pop rock électro R&B qui est à comparer au Move et qui avait une diffusion même en ondes moyennes au début, parce qu'il y a eu une petite polémique en fait au tout début de son existence, c'est que cette radio avait besoin de fréquences pour émettre, parce que c'était un tout nouveau réseau de fréquences que la RTBF devait mettre en route. Et donc, il y avait deux gros émetteurs FM diffusés qui diffusaient Pur en Wallonie, celui de Wavre et celui d'Anderlu dans le Hainaut. Et il y avait deux émetteurs ondes moyennes, un dans le Luxembourg et un en région liégeoise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la RTBF a grappillé petit à petit des fréquences à des stations privées, des fréquences qui étaient destinées à des stations indépendantes et des réseaux privés, qui ont évidemment moyennement apprécié l'opération.
Et on peut le comprendre. Alors justement, les radios privées belges, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Quels sont les groupes qui existent en Belgique?
Alors, il y a deux grands groupes privés en Belgique francophone. Il y en a un qui est très bien connu en France, qui s'appelle RTL, qui reprend à peu près 28% de part d'audience et qui édite deux services. Le premier, c'est Bell RTL, qui est en fait, bah, comme son nom l'indique, le pendant belge de RTL France, avec trois décrochages d'informations tôt le matin pour Namur, Liège et Charleroi. C'est une radio généraliste, une radio d'info, une radio d'humour qui reprend par exemple les grosses têtes.
Par contre, on est d'accord que ça n'appartient pas à M6 Group.
Non, ça n'appartient pas à M6 Group, ça appartient à RTL Group, qui est la version belge de M6 Group, si on veut vraiment simplifier à l'extrême. Et c'est une station qui a succédé en 1991 à RFM. Alors attention, c'est pas le RFM dont on va parler un peu plus tard dans ce podcast, mais c'est Rossel, le R de Rossel, qui est en fait la boîte qui édite les journaux Le Soir, Sud Presse, La Voix du Nord ou encore Contact FM de l'autre côté de la frontière.
On a en France, oui. Donc le groupe RTL avec Bell RTL, l'autre programme de ce groupe.
Alors ben, c'est Radio Contact, à ne pas confondre avec Contact FM. Radio Contact qui diffuse principalement de la musique pop, qui a eu une déclinaison flamande par le passé, qui a toujours une déclinaison germanophone dans l'extrême est du pays.
Alors il y a aussi le groupe N Group, où tu travailles.
C'est ça, le groupe N Group, ben, c'est en fait l'équivalent du groupe Énergie en France, qui sont des versions belges des stations françaises. Nostalgie fête ses 30 ans cette année en Belgique francophone. Si sur Nostalgie, on a pratiquement toute la programmation est belge à 100%. Sur Energy, qui a succédé à l'époque à Chérie FM sur la bande FM belge en 94, il y a une grande partie des programmes qui est diffusée depuis Bruxelles, mais il y a par exemple le relais de Coé l'après-midi qui vient de Paris.
Alors justement, tu l'as dit, hein, Nostalgie qui a fêté ses 30 ans en Belgique, elle a aussi lancé une nouvelle radio en DAB+, sur le web, Nostalgie Plus.
C'est ça, donc Nostalgie Plus, c'est un format qui n'existe qu'en Belgique, qui est en fait une web radio qui s'appelait Nostalgie H Tendre, qui a été renommée Nostalgie Plus et qui est maintenant diffusée sur le DAB+. Ça fait partie de ces quelques nouvelles stations qui sont diffusées par les radios, par les groupes privés et publics et qui ne sont disponibles que sur le DAB+, ou sur Internet. C'est donc un format oldies, très années, entre fin des années 50 et fin des années 70, et c'est disponible depuis novembre en flux musical continu pour le moment, mais les émissions vont arriver prochainement.
Alors ce qui est intéressant, c'est que Nostalgie Belgique, c'est surtout la première radio en Belgique francophone devant Vivacité. Et justement, on a un extrait hein, pour vous, extrait de la Nosta Family, de la matinale de Nostalgie Belgique. Écoutez. Plus loin,
loin. Ingrid et Bruno, tous les matins.
La Nosta Family sur Nostalgie.
Encore
opération exceptionnelle. Nostalgie vous offre votre loyer pendant toute une année.
Ah, ça fait rêver, hein. C'est une jolie économie, on en a tous envie, bien évidemment.
Extrait de la Nosta Family avec Ingrid et Bruno de 5h à 9h sur Nostalgie Belgique. Alors c'est assez surprenant car finalement, on retrouve des mécaniques d'antenne identiques en France. Mais surtout, entendre des noms de radio françaises mais avec un programme belge, bah, comme là avec Nostalgie, c'est assez amusant à écouter. Mais bon, rappelons que pas mal d'animateurs sont passés par la Belgique avant de venir en France. Et Michael par exemple qui était sur Énergie Belgique avant d'être à la libre antenne de Énergie France en 2005. Antoine, tu nous as parlé du service public, des groupes RTL et N Group, mais il y a d'autres réseaux, d'autres radios, je suppose?
Alors oui, il y a deux réseaux urbains. Le problème de la Belgique et de la fragmentation entre Flandre et communauté française, c'est qu'évidemment les territoires sont très petits et qu'il n'y a pas forcément place pour beaucoup de réseaux, pour avoir des réseaux de qualité correcte. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a quatre réseaux communautaires en FM qui vont couvrir toute la fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui est l'autre nom de la communauté française. Et puis, il y a deux réseaux urbains qui vont vraiment se focaliser sur les grandes villes. Et donc, dans ces deux réseaux, on retrouve un autre nom que vous connaissez bien, outre Quiévrain, qui est Fun Radio, qui est présente en Belgique depuis 1989 et qui reprend toujours certains programmes de France, avec par exemple Bruno Guillon. Donc ça, c'est le premier réseau urbain. Le deuxième s'appelle DH Radio, qui en fait existe depuis bien, bien longtemps, parce qu'en fait c'est la descendance d'un ancien réseau provincial de la province de Liège qui s'appelait Ciel Radio et qui a été rebaptisé Twiz entre 2010 et 2014 et depuis 2014 cette station s'appelle DH Radio qui a un format musique info et qui avait un partenariat avec Europe 1 fut une époque. Alors on pouvait écouter On va se gêner de Laurent Ruquier ou par exemple les interviews de Jean-Pierre Elkabbach étaient rediffusées sur DH Radio. DH, c'est le nom d'un des quotidiens en Belgique francophone qui s'appelle La Dernière Heure et qui est généralement appelé la DH. Et c'est une radio qui est amenée à disparaître parce qu'elle n'a pas été réautorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le nouveau plan de fréquence.
Alors, parlez aussi un peu de Sud Radio et Maximum.
Alors oui, Sud Radio, en fait il y a Sud Radio et Maximum. Ce sont les deux des réseaux provinciaux qui sont diffusés en Belgique francophone. Sud Radio est diffusé dans le Hainaut, Maximum est diffusé en province de Liège. Il y en a encore deux autres. Il y a Antipode en province de Brabant-Wallon et Must FM qui est diffusé en province de Namur et de Luxembourg.
Alors justement, bon, pour Sud Radio et Maximum, ça n'a rien à voir avec la radio française, hein, bien sûr.
Non, ça n'a pas de rapport, même s'il y a eu d'autres noms de radio française bien connus ici. Il y a eu Europe 2 dans les années 90, il y a eu Skyrock aussi qui a fait une tentative de diffusion ici en Belgique, mais ici Maximum, ça n'a rien à voir avec le Maximum qu'on connaît en France.
Alors même si à l'époque c'était une radio dance, maintenant la radio diffuse plutôt de la pop, des variétés, c'est ça?
Oui, c'est ça. Elle est devenue réseau provincial à Liège après un deuxième appel d'offres, parce qu'il y avait en 2008-2009, il y a eu un premier réseau provincial qui a été autorisé, qui s'appelait Zone 80, qui avait même un émetteur onde moyenne, il me semble, dans le sud de la France. Et ce qui s'est passé, c'est que ce groupe est tombé en faillite, il me semble, dans mes souvenirs. Et donc, du coup, le CSA a refait un appel d'offres pour le réseau liégeois et c'est Maximum qui l'a emporté.
Eh bien, on écoute un extrait de Maximum.
Maximum, le son de votre région. 15h-19h,
le drive-in.
Bonne fin de semaine avec le son de votre région. Maximum. Et avec le nouveau Alec Benjamin, il s'appelle Jesus in LA. Et dans quelques instants, c'est Yannick Noah qui nous montrera la voix des sages. Il nous fera entendre la voix des sages juste après la voix de notre Max Event.
Max Event. Max Event. Ça se passe en province de Liège.
Avec André Lucas, on parle aujourd'hui du premier tournoi de Lucha Libro. Bonjour André.
Bonjour Fred.
Alors c'est un concept qui avait déjà eu lieu à Warem. On avait eu l'occasion d'en parler dans le Max Event. On réexplique ce que c'est.
Alors la Lucha Libro, c'est du catch littéraire.
Extrait de Maximum, la radio belge, créée en 2006. Merci Antoine, en tout cas, pour ce point complet sur la radio en Belgique. Alors, on va continuer de parler ensemble sur la radio en Belgique. On va parler du lancement du DAB+. On va aussi parler des radios côté communauté germanophone et néerlandophone. Mais ça, c'est dans Des Ondes Vocast Premium. Rendez-vous sur premium.vocast.fr. Le lien est aussi dans la description. Si vous voulez en savoir plus sur le secteur de la radio en Belgique, c'est le moment. 1 € par mois remboursable et sans engagement. On teste de faire des contenus supplémentaires pour un flux à part. En partenariat avec Podfan, Podfan qui génère ce flux premium. Donc si vous avez des difficultés pour y accéder, n'hésitez pas à nous contacter par mail, contact@vocast.fr. Mais en tout cas, si cette partie sur les radios belges vous a plu, pour la suite, on vous donne rendez-vous sur premium.vocast.fr. Vos avis, vos réactions sur Twitter, @a-libot pour Antoine, et puis @AnthonyGros, ANTHONYGEOU2RUD pour moi. Place maintenant à la partie innovation du podcast. La radio a tout pour réussir, on va vous le prouver maintenant.
Des ondes Vocast, la radio a tout pour réussir.
Pour cet épisode, je suis ravi d'avoir en face de moi Laurent Berbon, journaliste à Europe 1, responsable du nouveau format en podcast Le Brief, journal conçu spécialement pour une écoute via les assistants vocaux. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et merci de me recevoir dans les studios d'Europe 1. Tous les jours de la semaine, on peut donc retrouver au fil des heures 6 flashs d'actualité avec un ton plutôt décalé mais qui reste sérieux. C'est très court, environ 2 minutes, mais ça va droit à l'essentiel et surtout c'est décalé dans le sens où il y a quelques illustrations sonores, extraits de films par exemple.
J'avais demandé les infos.
Ok. Oh, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard moi.
Je suis stupéfait de votre entrée en la matière.
Bonjour, c'est Laurent, je suis ravi de vous faire un premier point sur l'actu de ce jeudi 28 novembre dans le brief de 7h. On vous en parlait hier.
Alors avant tout, Laurent, d'où est venue cette idée de créer le brief? Pourquoi un tel format? Pourquoi ne pas s'appuyer sur les productions de l'antenne?
Eh bien, en fait, on a un petit peu regardé ce qui se passait sur... quand je dis « on », c'est à la fois la direction, c'est des équipes du numérique, ce qui se passait au niveau du marché des assistants vocaux, et qu'il y avait des offres de journaux qui étaient proposées, qui étaient vraiment intéressantes en termes de format, avec une écriture un peu différente, des sujets peut-être un peu différents aussi, plus tourné vers le quotidien. C'est ça qu'on a voulu faire aussi, et ce qui n'est pas incompatible d'ailleurs avec ce qui se fait à l'antenne.
Bien sûr. Voilà. Alors la cadence de production est assez importante, 6 flashs chaque jour de la semaine et un épisode type magazine pour le week-end. Alors toi tu produis les 3 flashs de la matinée, c'est ça? Comment tu t'organises?
Voilà, alors moi j'arrive à la rédaction à peu près à 5h, mon premier flash est à 7h, donc c'est pas du direct, mais je l'enregistre et je le publie quelques minutes avant 7h. Donc en gros j'ai 2 heures pour voir ce qui s'est passé dans la nuit en termes d'infos. Je regarde si côté antenne il y a des informations un peu maison qui correspondent à notre format et qui soient davantage tournées vers ce que recherche l'utilisateur de la commande vocale, des informations avant tout pratiques du quotidien, tout en continuant quand même à informer sur les grandes actus du jour et de la semaine.
Alors tu produis les flashs, mais tu es aussi en fait responsable du brief, t'as d'autres missions pour le brief,
voilà.
tu gères un peu l'équipe aussi, l'équipe de 4 personnes tu me disais en...
Voilà, donc en fait c'est vrai que donc jusqu'à on va dire 8h j'ai mes flashs à préparer, donc l'écriture, l'enregistrement, la publication, prochain flash à midi, et c'est vrai qu'entre en gros entre 8h30 et 11h je change de casquette et je me mets un peu en chef de projet, ce qui me permet un petit peu de continuer à garder un œil sur ce qui se fait chez la concurrence, de faire un petit bilan aussi de notre travail, de travailler aussi le brief week-end, qu'on le prépare la semaine pour le week-end, de faire des réunions avec des gens de l'équipe, pas uniquement du brief, mais des gens du numérique, des gens de la radio, pour continuer à faire évoluer le brief.
Alors, c'est une expérimentation et c'est insensé de tirer des conclusions dès maintenant, mais 5 mois après son lancement, quel premier bilan tu peux faire concernant le brief ?
Alors, c'est vrai que c'est encore relativement jeune, le brief, donc c'est toujours difficile de dresser un bilan. Mais bon, d'abord, il y a une satisfaction qui est qu'en interne, c'est un projet qui a été très bien accueilli, qui suscite beaucoup d'enthousiasme, qui, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, n'est pas perçu comme quelque chose de, j'allais dire, une menace par les gens de l'antenne, de la radio. On voit bien que c'est un produit qui est différent, qui se consomme, enfin, j'aime pas le terme consommer quand c'est de l'info, mais enfin, qui se consomme différemment. Donc, en interne, c'est une vraie satisfaction. En externe, on a d'excellents retours sur les téléchargements, les chiffres. C'est une évolution tous les mois, constante. Donc, je pense qu'il y a un vrai bouche à oreille qui s'opère.
Tu confirmes le chiffre de 150 000 écoutes
par mois? Oui, on est même plus de 150 000.
Mais c'est pas uniquement via l'assistant Google et Alexa, c'est
non,
tout
non,
confondu.
Voilà, c'est aussi... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on a pensé d'abord assistants vocaux, mais il se trouve que le brief existe aussi en podcast, et notamment le brief marche très bien en podcast. Et finalement, on se rend compte que c'est un journal qui va bien au-delà.
Oui,
et qui,
multiplateforme.
Voilà, multiplateforme et qui correspond.
Multi-usage. Sur les écoutes via les enceintes, justement, tu c'est quoi l'ordre de...
Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est beaucoup plus confidentiel. Hein, ça n'a rien à voir avec les chiffres de podcast.
Bien sûr.
D'abord... Radio France,
le flash de France Info est par défaut intégré.
Voilà, ils se sont lancés extrêmement tôt, ce qui fait que ils ont une position privilégiée.
En fait, il faut dire que l'utilisateur doit lui sur Alexa activer le brief et sur l'assistant Google doit aller dans les paramètres services et sélectionner le brief dans sa source d'actualité.
Voilà.
Donc c'est un effort. Après, on sait que Google va déployer une nouvelle version avec plutôt un flash d'actualité. Enfin, une sorte de radio personnalisée, mais ça va être généré algorithmiquement. Mm-hmm. Donc là, peut-être que vous aurez un petit peu...
Oui, voilà. Après, on a de très bons rapports avec avec Amazon, Google. On commence à monter des opérations ensemble pour mettre davantage en avant ce qu'on fait. On est arrivé un peu plus tard que Radio France, que France Info. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on propose quelque chose qui est complètement différent de France Info. Nous, on est sur un format propre.
Je remarque que dans le brief, le fait que vous n'utilisez pas les éléments de marque d'Europe 1, comme l'habillage sonore, par exemple, on a l'impression que vous avez cherché à créer une autre marque avec le brief. Est-ce que c'est volontaire ?
Absolument pas. On a essayé, d'ailleurs, sur le générique avec les équipes antennes, rester Europe 1 tout en marquant une différence. On est sur un ton plus décalé. Et ça, il fallait que ça apparaisse immédiatement, que ça accroche l'oreille dès le départ. Donc,
mais pourquoi Europe 1 et pas Virgin, par exemple ? Pourquoi la marque Europe 1 pour le brief ?
Parce qu'Europe 1 a toujours été, si on regarde l'historique d'Europe 1, une radio, voilà, qui a innové, qui était précurseur sur plein de sujets. Pour le coup, on est en totale adéquation avec l'ADN d'Europe 1. Donc, et c'est ça qui est assez chouette, c'est que on se lance dans quelque chose de nouveau et ça fait partie de l'histoire de la maison, quoi.
Non, mais ça, c'est je trouve ça très pertinent de la part d'Europe 1 de tester des nouveaux concepts, d'innover sur le plan éditorial comme technologique. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles choses ? Y a-t-il des évolutions du brief ou même des nouveaux projets dans ce sens que tu souhaiterais annoncer en exclusivité?
Alors, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de discussions sur d'abord sur le brief en tant que tel. Est-ce que on est content de tout ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut encore améliorer? Depuis le départ, on se dit de toute façon c'est un projet qui est amené à évoluer. On attend d'avoir un peu plus de visibilité aussi sur les chiffres pour voir dans la journée ce qui est le plus écouté, pour s'adapter un petit peu aux usages des utilisateurs. Et ensuite, on sait très bien que la stratégie de Google et d'Amazon, c'est d'aller vers effectivement une sorte de journal à la carte.
Bien sûr, de radio personnalisée.
Voilà, radio personnalisée. Ouais. Donc, c'est quelque chose on a forcément en tête et on commence à imaginer des choses.
On sait qu'il y avait des acteurs qui avaient lancé des flashs spécifiquement pour les assistants vocaux comme BFM ou même Capital ou Le Parisien. Il y en a qui ont arrêté BFM justement, et finalement c'est pas ça la force de la radio, c'est réutiliser ce qu'il y a à l'antenne, et au lieu de le laisser dans un flux linéaire, le réutiliser sur plein d'autres canaux.
Je pense que l'un n'exclut pas l'autre, en fait. Je pense que la force d'Europe 1, c'est à la fois son savoir-faire sur le son, et en même temps, on peut continuer à penser différemment sur les usages. Enfin, les deux sont pas incompatibles. Je pense que peut-être la différence entre Europe 1 et des médias comme BFM sur ce genre de produit, c'est que on a un historique sur le son, on a un savoir-faire.
Bien sûr.
Et
d'ailleurs, ça s'entend hein, quand c'est des acteurs qui sont pas issus de la radio et des acteurs comme Europe 1, on sent tout de suite la qualité de production.
Voilà, même si je dois reconnaître que pour avoir écouté celui de BFM,
c'était une bonne alternative à celui de France Info. Je
exactement, crois. Il était, moi j'ai trouvé très bien d'ailleurs.
Toutes les heures et vraiment c'était très bon.
Exactement. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est proposé en général est plutôt pas mal. Mmh. Après, sur le fait d'arrêter ou pas, bon, ça c'est des stratégies internes. Je trouve ça toujours dommage, mais.
Ben surtout, c'est qu'il faut attendre un peu plus longtemps. Là, c'est arrêté beaucoup trop tôt, je pense. Ils ont tiré des conclusions beaucoup trop rapidement, à mon avis.
Oui.
Est-ce que vous réfléchissez à un modèle économique derrière le brief, de la pub
On y a pensé. Enfin, on en a discuté immédiatement. En fait, on s'est dit, on va se lancer, mais on va pas commencer par mettre de la pub dans les oreilles des gens. Même si ça peut être fait de manière intelligente.
Et notamment le format magazine qui pourrait être un petit peu plus tourné vers le brand content, par exemple.
Ceci étant, je dois dire que quand on regarde notamment ce qui se fait aux États-Unis, il y a du sponsoring qui est fait de manière très intelligente. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a en tête. Je sais pas si on va se lancer, mais...
Et toi, en tant que journaliste, ça te dérange pas de parler d'une marque, de faire du sponsoring? Parce qu'il y a certains journalistes qui n'aiment pas ça.
Moi, tant que je peux parler de tous les sujets, qu'il y ait de la pub ou pas, du moment qu'elle elle ne dessert pas l'utilisateur, moi j'y vois aucun inconvénient.
Mais merci en tout cas Laurent.
Avec plaisir,
on va continuer de suivre tout ce que vous faites. Et on a parlé de la radio de demain, mais pour mieux anticiper ce qui pourrait être l'avenir du média, il est intéressant de connaître son passé. On va parler de RFM Radio qui est dans le même groupe qu'Europe 1. On passe du futur d'Europe 1 au passé de RFM. Tout de suite, troisième partie de l'histoire de RFM, la radio FM avec Christophe Dallance.
Des ondes vocastes. Les archives.
On continue notre série sur l'histoire de RFM, toujours avec Christophe. Nous avions parlé des débuts de RFM et ensuite de la période de brouillage. Alors après 423 jours de brouillage, RFM est de nouveau autorisé à émettre. Mais comme tu disais, hein, la radio couleur n'en sort pas indemne de son combat.
Non, on est en 1985, donc cette fois, la publicité est autorisée. Alors, il y a eu un plan de fréquence, des radios qui ont été dérogées, d'autres non. Donc, on a un peu nettoyé la bande FM, quoi. Hein. Là, c'est à peu près propre. Il reste encore quelques radios pirates, mais vraiment, bon, voilà, c'est vraiment la fin.
Ah non, c'est pas n'importe qui peut créer sa radio, c'est
ça. Non,
ce que
voilà,
tu veux dire.
C'est ça. Donc, chaque radio est autorisée sur une fréquence. On a même plusieurs radios sur une seule fréquence. Enfin, bon. Voilà, tout est contrôlé par l'État, la publicité est autorisée et on a un nombre de radios qui fonctionnent plutôt bien, hein, comme NRJ notamment, qui fonctionne même très très bien. Et puis RFM qui reste quand même un peu à la traîne parce que on est dans cette période de l'histoire de la bande FM où on se développe en réseau.
Bien sûr.
Et donc RFM rachète un réseau qui s'appelle CFM.
En 86,
Voilà, en 1986. Puis après, il y a une espèce d'embrouille où le réseau, en fait, c'est des franchisés. Le réseau CFM s'oriente vers une autre radio qui s'appelle Kiss FM. Donc, du coup, RFM se retrouve avec pratiquement plus aucun émetteur en France.
Et perd des fréquences,
voilà. Je crois qu'il leur reste à l'époque 35 fréquences en France. Ce qui est très peu pendant que NRJ se développe à vue d'œil. Le réseau Kiss FM qui se développe également. Et du coup, Patrick Meyer, au bout d'un moment, s'est dit, bon, bah, moi, je jette l'éponge. Alors, pas complètement parce que il garde quand même une grosse part, hein, du capital de RFM. Je crois qu'il y a 35% qui part chez les Anglais, 35% chez Patrick Meyer, et puis les 30% restants, c'est une banque, genre le Crédit Mutuel.
D'accord.
Mais ça reste, voilà, c'est les Anglais qui prennent le contrôle de la radio. Alors, pas n'importe lesquels, hein, parce que c'était le premier grand groupe de radio britannique qui s'installe donc à la direction de RFM. Et puis Patrick Meyer, au bout d'un moment, va lâcher complètement l'affaire.
Ce grand groupe, c'est Crown Communications.
Exactement, Crown Communications.
Qui est un grand groupe, en fait, britannique.
Oui, premier grand groupe de médias britanniques, anglais. Et à la tête de ce groupe, on a Andrew Manderstam, qui devient donc le nouveau PDG de RFM.
Alors j'ai lu une anecdote comme quoi, en fait, quand il est devenu PDG, il s'est adressé aux salariés en anglais, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Bon, c'était un gag, hein. c'était de l'humour anglais, parce qu'il savait très bien parler français.
Mais ça a été bien perçu ou pas, à la fois par les salariés et les auditeurs ?
Au départ, ça a été surtout surprenant. Et puis moyennement bien perçu par les auditeurs, parce que est arrivée une pléiade de stars.
Ah oui, alors je vois à l'été 1989, RFM, donc qui devient la radio FM, la nouvelle grille des programmes, c'est vrai qu'elle est très ambitieuse parce qu'on a du Antoine Decaune, Carl Zero, Eddie Mitchell, Bruno Solo, Jean-Luc Reichmann, et surtout à la matinale de la saison 1989-1990, assurée par Malheur et Eric Lange, de 6h à 8h30. On écoute un extrait promo.
Balade de galère en galère, quand les matins dérapent, tout s'écrachote. Ayez le réflexe RFM.
Ouais, puis il faut regarder le journal de 20h pour savoir le temps qu'il va faire cet après-midi, quoi. Ouais, on verra ça demain.
6h, 8h30, Malheur et Eric Lange ont coupé du bois et préparé votre chocolat. Laissez-vous dorloter jusqu'au soleil levant. La voix de John Lennon, les cuivres de Phil Collins ont choisi la radio la plus au point. 6h, 8h30, du lundi au vendredi, RFM, les matins les plus au point.
Le nouveau slogan de la radio, hein, c'est plus la radio couleur, hein, vous remarquerez, c'est la radio la plus au point.
Et toi, tu écoutais du coup ce nouveau RFM, toi qui étais fan à l'époque ?
Oui, j'écoutais. Alors, déjà, je trouvais qu'il n'y avait plus cette authenticité qu'on avait pu vivre avec toute l'histoire mouvementée des débuts de RFM. Là, on était vraiment sur un programme ultra formaté, ultra commercial. Le format musical avait évolué également, donc on était sur une radio de tube. On découvrait plus rien. C'était
du soft rock, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est du pop rock gentillet.
Ce qu'on a aujourd'hui sur RTL2 ?
C'est ça. C'est une espèce de mélange entre RTL2 et puis RFM actuel, quoi.
Les nostalgiques, hein, se souviendront sûrement de Babubi Bobu sur RFM avec Antoine Decaune et Monsieur Albert.
Bon, moins poétique, bien que tout aussi aérien, ce message enregistré à bord d'un avion. Écoutez, 45 06 46 20, j'écoute.
Bonsoir, et oui, on reçoit votre sale émission jusque dans les avions. Ici, tout va bien à bord. Veuillez attacher vos ceintures et vos bretelles. Nous rappelons également aux dames que les pipes sont interdites durant le vol. Nous demandons également au passager Rémi Laurent de suspendre son ravitaillement en vol. En espérant que le voyage se déroule dans les meilleures conditions, malgré Babubi Bobu, donc en direct de l'avion, par la compagnie RFM Sylvain à Toulon.
Tiens bien sur le manche à balai, mon gars.
Parce que... C'est pas mal.
Ouais,
il y a une attention.
Et maintenant,
un de nos fidèles qui nous prévient que demain, il sera un peu en retard devant son poste de radio.
Merci à Sylvain qui nous avait envoyé cet extrait par mail. Il nous a contacté via le formulaire sur notre site web vocast.fr. Alors Babubi Bobu, c'était de 18h à 19h, saison 1989-1990 sur RFM, mais uniquement pendant un an également.
On était à l'opposé du RFM de Coluche. C'était une radio très très formatée, voilà. Ouais. Alors que RFM avait montré une espèce de vent de liberté totale, presque anarchique. On s'impose avec un émetteur ultra puissant, on fait de la pub, on emmerde tout le monde. On arrive sur une radio ultra cadrée, propre, hein, mais cadrée, formatée, très écrit, plus aucune spontanéité. Et donc du coup, les auditeurs ont abandonné la radio. Donc, plus cette période de brouillage qui a fait que d'autres radios ont émergé entre temps.
Bon, alors sinon, en janvier 1991, la commercialisation des espaces publicitaires de RFM est confiée à la régie d'Europe 1.
Déjà, les Anglais ont décidé de se retirer du projet RFM, qui n'avançait pas, hein, entre les fréquences qui n'arrivaient pas, qui n'étaient pas attribuées, les sondages qui étaient au plus bas, je crois qu'on était à même pas un point, 1.5 sur le Natio. Donc les Anglais ont décidé de repartir sur leur île. Donc, alors il y a Énergie qui a fait une proposition. Qui n'a pas été retenu.
C'était à cause de la loi de anti-concentration,
ouais,
c'est ça.
Et donc du coup, Lagardère a commencé à foutre son nez dedans. Donc ils sont arrivés dans un premier temps par la petite porte, hein, c'est-à-dire qu'ils prenaient en charge effectivement toute la partie pub de la radio. C'était leur régie pub. Et puis petit à petit, ils ont essayé de racheter la radio et jusqu'à ce que cette radio leur appartienne à 100%, quoi.
Alors, tu nous as amené un dernier extrait, hein, c'est ce qu'il y avait sur RFM en 1991. On écoute.
On retrouve tout de suite Eric Lange et Steely Dan, c'est sur RFM. Écoutez ça. Pas mal, hein. Salut Marc.
Sur le 3615 RFM, découvrez les multiples facettes de votre personnalité. Le sens de votre prénom, l'analyse de votre écriture. RFM Rock.
RFM Jive to the Beat Arnaud. Et puis au-dessus, Kate Bush. C'était un peu plus calme que tout à l'heure. Hein. Depuis Mick Jagger, on a fermé les vannes, comme on dit. Bah, ça tombe bien, tiens, on va faire un petit bonjour à Van dans le Nord. Van, là-bas, on nous écoute sur 102.3. Donc bonjour à tous les gens du Nord de la France, à tous les autres également. Il est 2h32 sur RFM. Voici Mr. Big. Hold on, little girl.
RFM, 14h13, mode d'emploi pour se séparer en bon terme, si c'est possible. Bientôt, on achètera une rupture en kit, vous allez voir. C'était Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover.
Ah oui, parce que faut quand même expliquer que quand les Anglais sont repartis avec leur pognon, toutes les stars ont déserté.
Hein. Ah, forcément.
Tout le monde est parti aussi. Hein. Donc on s'est retrouvé en fait avec un espèce de format Music and News. On revenait sur la formule Music and News avec des animateurs toute la journée, des animateurs de flux. Le format était pas très bien défini, donc on retrouve l'habillage de Patrick Meyer qui est revenu, mélangé avec l'habillage du moment. Enfin, c'était un peu un grand n'importe quoi, c'est-à-dire que chacun était un peu livré à lui-même.
Donc voilà. Toi, tu as décroché à ce moment-là, tu...
Bah, ça sentait le vide, quoi. Enfin, tu vois, c'était un peu vide.
Donc alors, en 92, hein, du coup, malgré ses 114 fréquences quand même, Crown Communication connaît des difficultés financières et Europe 1 entre, comme tu l'avais dit, progressivement dans le capital de la radio. En 1994, le groupe Lagardère, donc propriétaire d'Europe 1, rachète définitivement RFM. Et dès septembre 1994, la station devient RFM, la radio en or, avec un format gold. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci Christophe.
Je vous en prie, avec plaisir.
C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocasses, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. En voix off, Estelle Hubert, et pour les crédits musicaux, c'est Rob, It's a Blast, la BO du film Radio Star. Parlez de ce podcast autour de vous à tous les passionnés de médias, de radio, de podcasting. Nous sommes disponibles à l'écoute sur notre site web vocasses.fr, mais aussi sur toutes les plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, TuneIn et même sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des Ondes Vocasses. On vous propose le podcast avec des épisodes en intégralité, mais aussi juste les extraits, des parties qui pourraient plus vous intéresser que d'autres, pour vous apporter la meilleure ergonomie d'écoute. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. Nous attendons vos réactions par mail contact@vocasse.fr ou sur mon Twitter @AnthonyGouraud, AnthonyGouraud. Prochain épisode, comme d'habitude, à chaque début de mois. Rendez-vous l'année prochaine, début janvier 2020. Ciao.
Des ondes vocastes.